Mon quart de travail fini, je détachai mon tablier et l'accrochai. J'appréciais l'inox luisant et sans reproche du comptoir. Je pouvais disposer. J'avais 3 heures devant moi avant de reprendre la routine au souper. J'escendis les marches du deuxième pont pour retourner à ma chambre. Les gros brise-glace à peine sortis des chantiers maritimes sentaient le neuf et le mazout. Nous longions l'île Ellesmere, la 2e plus grosse au monde. Le soleil qui encore hier me semblait-il tourner au-dessus du cercle polaire nous avait bientôt plongé dans la nuit totale. Le NGCC La Vérendrye poursuivait son baptême des glaces qui enserrait ses crocs glacés sur sa coque. En chemin, je croisai l'Indien devant la buanderie où il faisait son travail de blanchisseur. Mon cochambreur me salua discrètement d'un regard embruni. Il se prenait par la tête les réprimandes de Roger Blouin. L'Indien, fidèle à lui-même, gardait cet air sombre que je lui connaissais. Je savais qu'il traversait mauvais coton. La fatigue et la tension du voyage se ressentaient. Nous avions perdu nos repères temporels. Avec les ténèbres de novembre, l'insomnie nous avait rejoints ainsi que les migraines. Les inimitiés s'enveniment dans ces conditions. Je descendis un autre escalier jusqu'au pont inférieur et traversai un long couloir étroit où couraient des boyaux d'incendie. En dessous, le galop mécanique des milliers de chevaux vapeur martelait sa pulsation. La cabine exiguë que je partageais avec Régis se trouvait près de la proue. L'endroit était bruyant. Quand l'étrave du navire montait sur la glace, l'acier vibrait comme s'il était atteint de Parkinson. Vers 4 heures, Régis entra en sueur dans la cabine, angoissé. Il s'assit sur l'un des deux fauteuils près du hublot. Il avait détaché les 3 boutons supérieurs de sa salopette bleue. Il semblait crevé, dépité de sa journée. Les demi-lunes sous ses yeux marquaient sa fatigue.
Blum cherche du trouble. J'ai pas aimé comment il m'a parlé, t'as entendu?
Je le regardais en silence, car il ne parlait pas très souvent. Comment ça? Il ne répondit pas. Il passa sa main dans sa tignasse noire qu'il ramena vers l'arrière et n'ajouta pas un mot. Le feu couvait dans la braise de ses iris. Régis sortit un joint et l'alluma. Ça recommença à fumer. Il opina du chef, mais n'ajouta rien d'autre. Je ne lui fis pas de reproche. À ce stade du voyage, il faut s'épargner les leçons de morale. La dope est un moyen d'évasion sur notre coupeur de glace. Il me tendit la cigarette. Je tirai 2 bons coups. Est-ce que tu vas me dire ce qui te tourmente?
Blouin me cherche, tabarnak.
Ah, ça, je le sais, mais pourquoi? Il se leva et éteignit le mégot sous le jet du robinet. Blouin, un costaud au visage blême et à la queue de cheval blonde, était un dur à cuire.
Il m'accuse d'y avoir piqué son bloc de hache.
Quoi?
Il dit qu'il l'a oublié dans sa poche de lavage, que je l'aurais volé.
Régis devait vider les poches des vêtements avant la lessive. Il fallait éviter que ces affreux mouchoirs ne viennent coller au linge ou que des effets personnels ne soient détériorés. On cogna à la lourde porte en acier. C'était un graisseur du nom de Richard, une espèce de gorille poilu que je n'aimais pas avec sa tête de motard criminalisée. Il faisait partie du gang à Blouin.
Blouin aimerait ça te voir.
Dis que c'est me trouver, pas besoin d'envoyer son caniche.
L'autre le dévisagea, le visage gonflé par la colère.
Watch-toi, l'Indien.
La hache de guerre venait d'être déterrée. Il tourna les talons. J'avais appris à vivre avec l'intimidation sur les bateaux. Sans être une prison, notre vie de moine arctique avait quelque chose de carcéral. Ici, la loi de Darwin sur la sélection des espèces s'appliquait parfaitement. Il fallait être soit fort, soit intelligent pour y survivre. Quelques compagnons avaient des dossiers judiciaires. Un des matelots avec qui j'entretenais de bons liens avait jadis purgé une peine pour homicide involontaire. Régis se rinça le visage à l'eau fraîche au-dessus du lavabo. Il faisait très chaud dans la buanderie et il revenait en nage. L'Indien s'évacha sur son lit. Il s'était rassis, la tête entre les jambes, le front perlé de sueur. Ben, t'aurais pas pu oublier le bloc de hache dans sa poche et il se serait dilué dans la laveuse?
Il arrive que j'oublie des médailles, de la monnaie, des cartes, des Kleenex, je sais pas, je me rappelle pas d'avoir vidé ses poches.
Il y en avait pour combien?
8 onces.
Je sifflai, stupéfait. Plusieurs milliers de dollars. Blue fournissait des copains, ça je le savais. mais je ne soupçonnais pas de transporter une telle quantité de drogue. Je savais pas trop quoi lui dire. Il est certain d'avoir laissé la drogue dans sa chemise?
Oui.
Il se leva, se regardant dans le miroir. Il prit la brosse et recoiffa ses longs cheveux noirs. Il s'installa à sa table devant ses pots, s'empara des ciseaux. En voyant que je me préparais à partir, il se rembrunit.
Tu restes pas?
Non, je suis à la roue. J'ai ma formation de timonier.
Donc on fait nos prières,
dit-il en essayant de reprendre un peu de contenance. En tournant les talons, j'aperçus Blue qui avait eu la même idée que moi. As-tu vu Régis? Demandai-je en décapsulant ma bière. Il me toisa du regard et enfonça son index dans ma poitrine.
Non, mais si tu sais où ton hostie de sauvage a mis mon hache, t'as intérêt à me le dire.
C'est pas lui qui a pris ton bloc de hache. Puisqu'il pouvait m'expédier au carreau d'un coup de poing, tout ce que je trouvais à lui décocher fut un sourire teinté d'ironie. Je croisai le commissaire, passablement éméché. Il avait la réputation de prendre un coup solide. Il sentait le gin. Il se gratta nerveusement là où l'eczéma rougissait sous sa barbe. Avez-vous vu l'Indien?
As-tu été voir dans son tipi?
dit-il en gloussant.
Non, je l'ai pas vu, ton Indien.
Dit-il en reprenant sa marche chaloupée. Régis jouait peut-être aux cartes dans le mess des sous-officiers. Je glissai ma tête dans l'embrasure de la porte et ne l'aperçus pas. Se trouvait-il dans la salle des machines? Je descendis les longues échelles qui menaient dans les entrailles du navire. Le cœur du monstre battait au son des 10 010 kW de puissance. La chaleur et le vacarme y étaient assourdissants. Je croisai l'ingénieur et lui demandai s'il avait vu l'Indien. Il me fit signe que non. Reggie était probablement allé dans la chambre de matelot en train de cuver son alcool. Mais l'Indien n'avait que très peu d'amis, à part les fois où on l'invitait à jouer aux cartes. Je sortis de la cale d'enfer, fis le tour des chambres, mais personne ne l'avait vu. Je regagnai ma cabine. Je sortis un disque, je finis par m'étendre sur mon lit, casque d'écoute sur les oreilles. Je m'assoupis. Le temps passa. Je m'endormis tout habillé sur ma couchette et me réveillai après un rêve intense. Je tâtai le matelas du haut avec mes pieds sans rencontrer de résistance. Régis n'était pas revenu. Pourtant, ses souliers et ses bottes étaient sur le paillasson. Je commençais à m'inquiéter. Ma montre marquait 2h30. Je sortis, enfilai un tricot et partis à sa recherche. J'ouvris la porte et courus à la timonerie pour aviser l'officier de quart. Les conditions météo s'étaient gâtées entre-temps. On ne distinguait qu'un voile épais de neige et un vent violent rappel flanc gauche du navire. J'attendis que l'officier relève ses yeux de l'ordinateur.
Oui, je peux faire quelque chose?
Mon compagnon de chambre, Régis, a disparu. Je sais pas où il est.
Dans le mess des matelots?
Je l'ai cherché à différents endroits.
Dans une cabine avec d'autres marins?
Il savait bien pourtant que l'Indien faisait bande à part.
Est-ce qu'il aurait bu?
Demanda-t-il, inquisiteur. Je sais qu'il n'allait pas bien du tout. Je m'abstins aussi de parler de l'accusation de Blouin concernant le H et des 6 canettes de bière. L'officier alla réveiller le premier officier. Le dernier écouta le récit de la disparition de l'Indien et parut inquiet. Le bateau fut passé au peigne fin, mais la battue ne donna rien.
Il ne reste plus qu'à aller voir dehors,
lança l'officier devant des regards étonnés. Il mandata 3 marins pour faire le tour des ponts. Je les accompagnai. Cette recherche est absurde. En raison du froid extrême, Régis se serait condamné à mort. Il fallut s'habiller le plus chaudement possible. Aucune partie de peau ne devait être exposée. Ce froid était le pire des venins. Nous ne pourrions rester plus de 2 minutes sans risquer l'hypothermie. Chacun aurait une zone à ratisser. J'abaissai mes lunettes et allumai ma torche. Mes 3 compagnons ressemblaient à des yétis. On se donna le signal et on dut ouvrir la porte à 2, tellement le vent s'opposait. À l'extérieur, le navire ressemblait à une grosse meringue congelée. Je me dirigeai vers la coque. Le pont glissait. Le bruit des glaces qui se fracassaient était percutant. Il fallait se tenir pour avancer d'1 mètre avec un champ de vision réduit. À travers le rideau de neige, je m'attendais à buter sur un Régis gelé, roulé en boule sur le bord du bastingage. Au bout d'une minute, le froid commença à m'engourdir les extrémités. Il me fallut revenir. La tentative n'avait rien donné. Les regards étaient sombres. L'officier ordonna que l'on ratisse une nouvelle fois le bateau de fond en comble. Il restait encore de l'espoir. Régis avait tellement honte d'avoir rompu sa promesse, croyais-je, qu'il s'est enterré dans un trou, sous-mort. La fouille dura une heure. Tout le monde y participa. Puis les visages s'allongèrent. La rumeur se mit à circuler. L'impossible. Cette perspective était la pire, mais la plus vraisemblable. L'Indien s'était jeté dans la mort du Nord. Je me suis mis à penser qu'on l'y avait peut-être poussé de force, mais je n'en parlais pas. L'officier convoqua l'équipage dans le mess des matelots. Je retournai dans la cabine en souhaitant y retrouver Régis. Il avait dû nous jouer un bon tour, mais la couchette était toujours vide. Dans le cendrier se trouvaient des exportés, la marque de Régis, et un égout de Players. Quelqu'un était venu dans la chambre et avait éteint sa cigarette. J'étais non-fumeur. Cette personne était un témoin important. Puis je fixai la penderie. Je sentis ma gorge se nouer. Je m'approchai lentement. J'ouvris d'un coup les battants. Régis n'y était pas. Je l'imaginais mal sortir dans ce froid polaire en pantoufles, mais elle n'était nulle part. Je me dirigeai d'un bon pas vers la buanderie. Je fouillai jusqu'au fond des deux poubelles. Beaucoup de mousse, des feuilles d'assouplissant, des paquets de cigarettes vides, mais pas de hache. Je savais que ce dernier morceau de shit avait déclenché ce drame et j'espérais mettre la main dessus pour sauver l'honneur de mon ami. Dans le mess des matelots, le lieutenant Bouchard était visiblement atterré.
Il n'y a aucune chance pour que Régis soit encore en vie. En tombant par le côté du navire, il a pu frapper la glace, se blesser gravement et mourir d'hypothermie. S'il s'est jeté à l'arrière du navire, là où la glace est broyée, il se sera noyé. Ce qu'il faut maintenant, c'est espérer retrouver le corps de Régis et le ramener chez lui.
Dit la voix grave de l'officier. Le pilote d'hélicoptère, un Européen, offrit de braver le mauvais temps. L'officier accepta de lui laisser faire une sortie. Il quitta aussitôt en courant avec un cadet officier. Il fallait maintenant savoir à quel moment Régis avait pu se lancer par-dessus bord.
« Qui est la dernière personne à avoir vu l'Indien ?»
demanda Bouchard. Personne ne répondit. « Moi, je l'ai vu avant de monter dans la timonerie. Mais je sais que quelqu'un fumait une cigarette dans notre chambre avec l'Indien. » Il y eut une rumeur sourde, mais personne ne se manifesta. On se retourna pour me regarder. Cette personne pourrait nous dire à quelle heure elle a vu l'Indien pour la dernière fois.
« Qui est cette personne ?»
répéta le lieutenant.
« Ça me permettrait de délimiter ma zone de recherche. »
Blouin, paralysé, ne soufflait mot. Personne ne parlait. L'officier jeta un regard en ma direction. Le champ de glace à ratisser serait long. Après avoir indiqué à chacun son rôle, car il faudrait faire des rotations sur le pont, Bouchard remonta dans la timonerie. Nous sommes habillés pour affronter à nouveau le froid. Malgré la volonté et l'espoir de retrouver notre compagnon, il fallut renoncer une douzaine d'heures plus tard, quand le blizzard se mit à mugir.
C'est plus que deux semaines à ce voyage.
Il ne restait plus que 2 semaines à ce voyage alors que nous franchissions la mer du Labrador. Chaque jour représentait un gain de lumière. Le rocher percé fut bientôt visible, et tous les marins qui l'avaient vu tant de fois se ruèrent vers les hublots, alors que les sculptures de glace les plus surréalistes du Grand Nord ne les avaient jamais impressionnés. Je sortis mon coffret de Duke Ellington. Je remarquai qu'il en émanait une odeur étrange. À l'extrémité de l'enveloppe protectrice, je remarquai une substance résineuse. Je retirai les vinyles et glissai un œil à l'intérieur. J'en sortis à force de tâtonner l'équivalent d'une demi-livre de haschich. J'attendis la fin du souper. Une fois mon service complété, je montai dans ma chambre. J'enfilai mon coupe-vent. Je marchai derrière l'héliport. Je sortis la motte maudite et la garrochai de toutes mes forces dans le golfe du Saint-Laurent.